Le débat du jour, Jean-François Cadet.
L'Afrique doit-elle se tourner vers l'Asie? Nous ouvrons le débat ce soir à l'occasion du premier sommet Inde-Afrique qui s'est ouvert aujourd'hui à New Delhi. Ce sommet, c'est le signe qu'après la Chine, l'autre étoile montante de l'économie mondiale a bien lancé une grande offensive économique et commerciale en direction du continent africain, de ses richesses et de ses marchés. Alors l'Asie est-elle le nouvel horizon de l'Afrique? Comment les Africains doivent-ils répondre à ce partenariat que l'on présente habituellement comme une source d'intérêt mutuel? Est-ce un partenariat gagnant-gagnant? Est-ce une alternative raisonnable et profitable aux relations traditionnelles entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales occidentales? Pour en débattre avec nous, Yves Ekwe Ameizo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct et en ligne avec nous de Vienne, en Autriche. Vous êtes économiste, directeur du groupe de réflexion Afrologie. Également en ligne et en direct, Théophile Obenga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et linguiste, professeur à l'université de San Francisco aux États-Unis. Vous êtes aussi l'auteur d'un appel à la jeunesse africaine, publié en France aux éditions Xina Communication. Alors, dès le début de ce livre, Théophile Obenga, vous incitez précisément les Africains à se tourner vers l'Asie. Pourquoi?
Oui, merci beaucoup pour votre interview. En fait, je ne les incite pas réellement à tourner. Il faut explorer tous les partenariats, que ce soit les partenariats traditionnels ou les nouveaux partenariats, il faut les explorer, quoi. C'est ça que je voulais dire, en fait.
En même temps, le partenariat traditionnel, vous n'y croyez pas vraiment, parce que vous tapez quand même à bras raccourcis sur le partenariat traditionnel entre les Africains et leurs anciennes puissances coloniales.
Oui, parce que le partenariat traditionnel, on peut l'évaluer. Il y a à peu près plusieurs siècles qu'il existe, donc il y a plus d'éléments pour l'évaluer. Et en gros, l'évaluation est plus ou moins négative. Tandis que, mais on peut l'améliorer, on peut l'améliorer. Tandis que le partenariat asiatique est à peine existant, on a des difficultés à l'évaluer. Voilà pourquoi il n'y a pas tellement de critiques de ce côté. Mais je crois que l'Afrique ne va pas se développer avec les partenariats. L'Afrique doit se développer par elle-même, pour elle-même, dans le monde actuel.
Alors, de ce point de vue-là, j'imagine que Yves Ekwe Ameizo sera d'accord, mais justement sur la question de cette différence entre le partenariat traditionnel avec les puissances coloniales qu'évoquait à l'instant Théophile Obenga et le nouveau partenariat que les pays asiatiques, l'Inde et la Chine en tête, voudraient nouer avec les pays africains, Yves Ekwe Ameizo, est-ce que vous croyez effectivement que ce partenariat-là serait d'une nature nouvelle?
Nouvelle, certainement. Moi, je serais surtout d'avis de parler d'alternative, voire de diversification dans la façon, justement, d'organiser des alliances stratégiques. Et sur ce plan, il faut préciser deux choses. La première, on parle d'Afrique, géant Afrique contre géant l'Inde ou Chine. Je crois que l'Afrique est peut-être un géant sur papier, mais il y a quand même plusieurs États sous forme de mosaïque qui ne sont pas structurés, qui n'ont pas une politique commune, notamment sur le plan de tout ce qu'on vient de voir en termes d'économie. Et donc le partenaire gagnant-gagnant dont vous avez parlé ne peut pas fonctionner tel que ça s'est fait justement avec le partenaire traditionnel. La deuxième chose très importante aussi, c'est que finalement, quand on voit, j'espère qu'on va en parler, ce que propose l'Inde ou la Chine d'ailleurs, mais dans ce cas particulier l'Inde, n'est pas très différent de ce qu'a proposé justement ce partenaire traditionnel. Par exemple, l'accès de toutes les matières premières africaines sans taxes en Inde, puisque c'est ça l'objet actuellement, l'Europe l'a proposé. La réalité, c'est que c'est le prix. Si le prix n'est pas intéressant et que la globalisation permet de mieux payer par l'Inde ou l'Asie ou la Chine, à ce moment-là, l'Afrique va se tourner de ce côté-là. Donc le problème n'est même pas à ce niveau-là. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là de ce surplus qui va certainement arriver en Afrique. Mmh. Et si on fait les mêmes erreurs qu'avant et que ce n'est pas investi ni dans l'infrastructure, la santé, l'éducation, voire dans l'industrie, on aura les mêmes problèmes dans le futur.
Alors on va y revenir, Théophile Obenga. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Yves Ekwe Ameizo quand il nous dit finalement la stratégie des pays asiatiques, elle est la même que la stratégie des pays européens?
Oui, je crois que notre ami a tout à fait raison, je crois, tout à fait raison. En ce sens que je crois que pour moi, de façon très claire, quels que soient les partenariats, les modalités, les accords, l'Afrique ne peut pas se développer par ce moyen-là. C'est radicalement impossible. Personne ne peut créer un espoir pour les Africains, si ce n'est les Africains eux-mêmes d'abord. Ils vont en Inde, ils n'ont rien en commun, aucun projet panafricain, aucun projet régional. Ils n'ont pas de dossier commun. Bon, ils vont en Inde, la même chose. Ils étaient au Portugal avec l'Union européenne. C'est la même chose. Donc, c'est pas tellement ça. On va leur acheter les matières premières. L'Afrique va maintenant développer l'Asie à partir de ces matières premières, l'Afrique va continuer à développer l'Occident avec les matières premières, et l'Afrique va se sous-développer avec ses propres matières premières. C'est ça le problème.
Donc on revient toujours au problème africain. Tout de même, Théophile Obenga, vous aviez dit il y a quelques semaines dans une interview au site internet afrique.com, la Chine ne nous a pas colonisés, nous n'avons pas vécu avec elle pendant des siècles, faisons affaire avec eux, tu gagnes, je gagne, après il suffit d'être vigilant afin de sauver ses intérêts. Ça veut dire que vous croyez quand même dans ce nouveau partenariat sino-africain?
Oui, s'il faut choisir quand même, je peux évaluer l'Europe, l'Occident, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, les ACP, on a beau changer les noms, ça n'a rien donné en Afrique.
Vous dites que le modèle traditionnel n'a pas fonctionné, donc tant qu'à faire, prenons une autre solution, prenons notre chemin.
Là, il semble que tu gagnes. Ici, l'Afrique est vigilante, il pourra mieux faire. Parce que les Chinois, s'ils viennent pas pour les beaux yeux des Africains, ils viennent prendre le pétrole, ils viennent prendre les matières premières pour développer la Chine prioritairement.
Alors, justement,
en le faisant, ils disent que on peut négocier, je veux que vous gagnez, que je gagne aussi.
Alors, à vous lire, Ivekoué Amezo, on a l'impression que cette vigilance mise en avant par Théophile Obenga, elle n'est pas vraiment au rendez-vous en ce moment. On a un peu l'impression que les Africains sont en train de se faire avoir par les Chinois et par les Indiens, comme ils se seraient déjà fait avoir par les pays européens.
Je vais être nuancé. Je crois qu'il faut partager ce que vient de dire en deux. Il y a une partie absolument qui n'est pas très vigilante, et ça se voit très rapidement dans les contrats qui sont signés entre justement l'Asie et l'Afrique. D'ailleurs, en parlant de projet régional, je rappelle que la dernière fois que les chefs d'État sont allés en Chine, tout ce qu'ils ont pu ramener, c'est de faire une salle de conférence à Addis Abeba, et que cette fois-ci, c'est encore l'Inde qui propose, je crois, tout un système de fibre optique ou dans le système de télécommunications électroniques. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que les demandes viennent plutôt de l'Asie vers l'Afrique. Donc il s'agit bien d'un rapport de l'Asie vers l'Afrique. Alors, pour la question de la vigilance, entièrement d'accord. Seulement, voilà, c'est pas tous les pays qui sont au même rang en Afrique. Il y a des pays relativement avancés, l'Afrique du Sud, ou un certain nombre qui sont plus structurés, qui sont une meilleure gouvernance, la Botswana par exemple, qui eux, essayent d'une manière générale d'avoir des projets précis, de savoir exactement ce qu'ils demandent, et si ça ne fonctionne pas, ils ne signent pas accord. Alors, il y en a qui ont d'autres qui, certainement, ont des problèmes beaucoup plus, disons, alimentaires, qui consistent à équilibrer un budget ou tout simplement trouver d'autres moyens d'échapper aux conditionnalités que nous connaissons venant des pays occidentaux, notamment des grandes institutions internationales.
Mais cette deuxième catégorie de pays, Ivekoué Amezo, ils sont en train, finalement, de se faire avoir, parce que vous dites, vous, on va vers un suicide collectif.
Disons, le mot suicide n'est pas exact. C'est-à-dire que quand ils font l'échange, écoutez, ils y gagnent quand même. Écoutez, quand vous prenez l'uranium au Niger et que, bon, sans donner trop de noms de pays, c'est de 1 à 10 pratiquement en termes de prix, et qu'on me propose le prix international et qu'on me propose à moitié, quand il s'agit de la Chine ou de l'Inde, je préfère acheter là-bas ou vendre là-bas que quelqu'un qui me propose seulement un. Seulement, la réalité, c'est que quand ce surplus, encore une fois, rentre dans le pays, et là, on parle plus de vigilance, on parle carrément de gouvernance. Il s'agit pour ces chefs d'État de s'organiser pour servir une population. Et là, on retombe dans le problème de fond qui est surtout celui de la représentativité de ces gouvernements et donc le service qu'ils rendent aux populations, réelles ou pas d'ailleurs.
Théophile Obenga, est-ce que la Chine et l'Inde, finalement, et les autres pays asiatiques, mais enfin évidemment on parle surtout de la Chine et l'Inde, n'ont-elles pas aujourd'hui finalement le même comportement que les puissances occidentales dont vous dénonciez à l'instant le comportement? Autrement dit, est-ce qu'on risque pas finalement en Afrique, à terme, de remplacer le précaré européen par le précaré sino-indien?
Oui, mais c'est ça, le problème est le même, en fait. Hein, le problème est le même. C'est-à-dire que l'Afrique, à part quelques pays peut-être, l'Afrique ne sait pas ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ou ne veut pas le savoir. Elle ne résout aucun problème, même élémentaire, d'eau, d'électricité, il y a le chômage, tous les jeunes chôment en Afrique. Le taux d'analphabétisme augmente chaque année. Donc l'Afrique ne résout pas les problèmes. Bon, elle est riche. Le monde ne va pas attendre. Les Chinois, les Indiens ont besoin de matières premières. Ils viennent, ils proposent ce qu'ils proposent. Les Européens, l'Europe est très pauvre. Le sous-sol est très pauvre, il n'y a rien. Ils viennent pour l'uranium et pour tant d'autres matières. On ne peut pas les empêcher. Ils viennent, si vous dormez, ils vous exploitent. Donc la faute, c'est l'Afrique. Aucun partenariat ne sauverait l'Afrique. Aucun, absolument aucun. Quelle que soit la nature des dossiers. Il faut que l'Afrique se ressaisisse. Il faut que l'Afrique lise le monde. Les géopolitiques, les géostratégies, les conflits qui se passent dans le monde, et c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tant qu'on n'a pas cette conscience politique qui a animé les Kouma, qui a animé les Julius Nyerere, et les Jomo Kenyatta, et les Cheikh Anta Diop, et les Marcus Garvey, tant qu'on n'est pas dans ce paradigme panafricain et africain patriote, on a beau faire... On a beau faire, les Chinois ne vont pas construire la Chine et construire l'Afrique. L'Inde ne va pas construire l'Inde et bâtir l'Afrique. L'Europe ne va pas développer l'Europe et développer l'Afrique.
Yvekoué Amezo, vous êtes d'accord? Est-ce que la solution, c'est le panafricanisme?
Pardon?
Yvekoué Amezo, est-ce que la solution, c'est le panafricanisme, comme le dit Théophile Wenger?
Non, mais le panafricanisme, c'est quelque chose de très, très, très ambitieux. Et va prendre un tout petit peu de temps. Il faut passer par des structures intermédiaires.
Autrement dit, on n'y est pas aujourd'hui.
Pardon ?
On n'y est pas aujourd'hui.
On n'y est pas du tout aujourd'hui. Je propose moi d'ailleurs une notion d'interdépendance et c'est une nouvelle forme de gouvernance que de travailler avec des pays dans lesquels il y a beaucoup de dépendance économique notamment et en même temps, puisqu'on a besoin de l'un de l'autre, qu'on puisse trouver des partenariats beaucoup plus intelligents. Mais revenons sur le précaré. Je ne pense pas qu'il y aura un précaré indien et chinois et je vais vous dire la raison.
Les méthodes ne sont pas les mêmes.
D'abord ça, mais surtout que la Chine, l'Inde, en tant que telle, en tout cas aujourd'hui, ne demande aucun contrôle sur les États africains. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes sur le Soudan et sur un certain nombre de crises africaines que vous connaissez très bien.
Autrement dit, ils s'intéressent qu'à l'économie et au commerce et pas à la politique.
Bah, disons qu'ils s'intéressent à défendre leurs intérêts, la première des choses. Et la deuxième, ils connaissent quels sont les besoins alimentaires de ces chefs d'État, essentiellement des gouvernements. Et à ce moment-là, ils proposent. Actuellement, il y a plus de 50 milliards, je crois, que la Chine est en train de mettre et de proposer au Nigeria, par exemple. Et alors que le Nigeria est sorti de loin du club de Paris, donc ça veut dire qu'il n'est plus endetté et rendu payé au prix du marché. Maintenant, le Nigeria est en train de négocier, par exemple, des prêts concessionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, bien qu'on soit riche, entre guillemets, on essaie encore une fois de fonctionner comme si on était des pays pauvres et demander des avantages des pays pauvres. Et à ce moment-là, parce qu'on va demander des conditions qui ne sont pas les conditions du marché, alors bien sûr, le pays asiatique commence à discuter aussi et commence à demander un peu plus, soit en matériel, soit en participation dans telle ou telle richesse africaine ou carrément en possession du sol. Alors, il y a une deuxième chose très importante qu'on n'a pas dit encore.
Rapidement.
La notion de compétition. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de ces pays asiatiques n'ont aucun problème de compétition. La plupart du temps, si pour le tel ou tel produit manufacturier, ils vont en compétition avec les pays d'Europe ou des États-Unis, ils sont largement gagnants. On le voit sur la plupart des produits qui sont actuellement en Afrique. Ce qui se passe, c'est que la plupart de ces marchés qui échappent maintenant à l'Europe et plus particulièrement à la France, alors la France passe par des moyens politiques, passe par d'autres moyens. On le voit comment le patronat français circule en Afrique aujourd'hui, en ce moment. Donc voilà les deux éléments, en tout cas de base, qui vont éviter, je pense pour le moment, de parler de précaré chinois ou indien.
Théophile Obenga, une conclusion très rapidement. Est-ce que vous estimez que le comportement des Chinois et des Indiens, qui est effectivement très différent du comportement des Européens ou même des Américains, c'est un avantage, c'est un problème pour eux et pour les Africains?
Oui, quel que soit, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la bonne volonté ou le point de vue, les intérêts chinois, etc., mais est-ce que radicalement, les Chinois travailleront pour l'Afrique? Les Chinois vont développer l'Afrique réellement? Ils viennent pour les intérêts chinois. C'est à nous d'être vigilants. Et ce n'est pas aucun partenariat ne va développer l'Afrique. C'est l'Afrique elle-même. Ça, c'est le point de départ.
De ce point de vue-là, vous êtes d'accord tous les deux.
Tant qu'on ne fait rien, on a beau signer les accords, mais on va vider l'uranium. On en a vidé dans d'autres pays africains. On a signé les accords, on a accordé les trucs, on a fait des précarés. Ça n'a rien donné. Ça va donner beaucoup de chômage. Et il y aura des problèmes d'immigration en Europe.
Alors, voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Théophile Obenga, d'avoir été en ligne et en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes historien et linguiste, professeur à l'université de San Francisco en Californie, dans l'ouest des États-Unis. Merci aussi à vous, Yvekoué Amezo, d'avoir été en direct avec nous de Vienne, en Autriche. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur du groupe de réflexion Afrologie. Et puis une annonce, depuis l'ouverture de ce sommet Afrique-Inde de New Delhi, le Premier ministre indien Manmohan Singh a annoncé tout à l'heure le doublement des prêts consentis à l'Afrique, des prêts qui vont donc passer de 5,4 milliards de dollars sur les 5 prochaines années, qui vont passer à 5,4 milliards contre 2,1 milliards sur les 5 dernières années. Merci.